Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. La lutte contre le tabagisme porte ses fruits. 1 600 000 fumeurs en moins en France depuis 2016. Qu'est-ce qui marche? Nous voyons cela dans un instant. Emmanuel Macron renoue avec les déclarations polémiques. Double conseil à la dame de 73 ans, militante d'attaque, blessée dans la manifestation Gilets jaunes de samedi à Nice. Il lui souhaite rétablissement et sagesse. La gauche est choquée. La droite, sur le thème, la manif était interdite, elle n'aurait pas dû être là. La famille et attaque porte plainte contre la police. Que s'est-il passé samedi? Le point avec Julie Pietri. Donald Trump est-il totalement tiré d'affaire après le rapport du procureur Mueller? Aucune preuve de collusion avec la Russie lors de la présidentielle. Filer les ennuis, vraiment pas tout à fait sûr. Elle a 54 ans. Elle a élevé 7 enfants. Elle risque d'être virée de chez elle parce qu'elle refuse de payer le loyer dans un appartement pourri que le propriétaire n'a jamais entretenu. Vous entendrez le témoignage de Nadia et sa fille Asia, soutenu par la Fondation Abbé Pierre.
L'humidité absolument partout.
La chambre des enfants, c'est impossible.
Les matelas, les couettes, les draps sont mouillés, puisque les murs ne sont pas du tout isolés. Là, il y a des champignons.
Regardez devant.
C'est au micro de Sandrine Houdin tout à l'heure, à quelques jours de la fin de la trêve des expulsions hivernales. Dans cette édition encore, une figure écolo sur la liste macronienne aux élections européennes, Pascal Canfin. Derrière, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui devrait démissionner aujourd'hui pour prendre la tête de la liste. Abdelkader Mera, procès en appel. La question est toujours la même. A-t-il conseillé, inspiré son frère Mohamed, auteur de la vague d'attaques terroristes à Toulouse en 2012? Le géant américain Amazon est-il en train d'étouffer des PME françaises? Coup de gueule du secrétaire d'État au numérique. Invité de ce journal, la juriste Delphine Borne, qui travaille pour la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Météo France, que dit Météo France ce matin?
Elle dit des températures en baisse par le nord. N'attendez pas plus de 9 à 13 degrés dans la moitié nord. Elles sont aussi en baisse dans la moitié sud et comprises entre 14 et 19 degrés. Puis côté ciel, a prévoyé une forte nébulosité dans un grand quart nord-est. Comptez sur d'assez belles éclaircies ailleurs et beaucoup de soleil autour de la Méditerranée.
A tout à l'heure pour d'autres détails. Un adversaire qu'on aime bien ce soir pour les Bleus du foot, l'Islande. Leur épopée, l'énergie de leurs supporters lors de l'Euro 2016 avait marqué les esprits. Que sont-ils devenus? Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Depuis 2016, en France, plus de 500 000 fumeurs arrêtent chaque année. Des gens qui fument tous les jours, il y en a 1 600 000 de moins qu'il y a 3 ans. Yves Martinet est le président du Comité national contre le tabagisme. Qu'est-ce qui a marché?
L'efficacité, c'est la combinaison de différentes mesures. La plus efficace et de loin est l'augmentation des prix, mais aussi on a le paquet neutre et puis les remboursements des substituts nicotiniques qui sont très efficaces. Toutefois, nous avons encore un pourcentage de fumeurs en France qui est extrêmement élevé, de l'ordre de 25 à 26% d'adultes fumeurs quotidiens, ce qui est énorme si on compare par exemple à d'autres pays tels que la Grande-Bretagne, où les taux sont en dessous de 15%. Je rappelle une notion extrêmement importante. Il est absolument anormal qu'actuellement les enfants puissent acheter du tabac chez les buralistes alors que la loi interdit de vendre du tabac aux mineurs. Sur 3 enfants qui vont fumer une cigarette pour voir, il y en a 2 qui seront des consommateurs quotidiens réguliers pendant une partie de leur vie. C'est une drogue extrêmement dure. Il ne faut pas toucher au tabac.
Propos recueillis par Véronique Julia. Annonce faite, ce chiffre, 1 600 000 fumeurs de moins à l'occasion d'un comité interministériel à la santé. Autre annonce à propos des angines. Est-ce que votre angine est virale ou bactérienne? Un petit coton-tige au fond de la gorge et on arrive à savoir. Eh bien, ces tests pourront être utilisés dans les pharmacies à partir de l'an prochain et pris en charge par la Sécurité sociale. Dégradation et actes islamophobes. Une tête de cochon et du sang animal retrouvés ce matin à l'entrée du chantier contesté de la mosquée de Bergerac en Dordogne. Une dame de 73 ans, militante d'attaque, le mouvement altermondialiste, est en ce début de semaine au cœur du débat politique. Geneviève Le Guay, blessée à la tête lors de la manifestation de Gilets jaunes à Nice samedi. Dans un entretien à Nice matin, Emmanuel Macron parle d'elle en lui souhaitant un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Quand on est fragile, dit le président de la République, on ne se rend pas dans des lieux définis comme interdits. Tweet choqué de Jean-Luc Mélenchon. Notre Geneviève n'a pas besoin de vos leçons de sagesse. Elle milite pour le bien des autres. Et vous, au nom de quoi la frappez-vous? Autre commentaire à gauche, celui de Yannick Jadot, candidat écologiste aux européennes.
Je n'aime pas quand un président de la République moque
une personne âgée, tout citoyen français, mais une personne âgée en particulier, qui était probablement là pour défendre sa retraite ou l'avenir de ses petits-enfants. Elle n'était dans aucune démarche de violence, et donc le président de la République devrait davantage respecter l'ensemble de ses concitoyens.
Geneviève Legay est tombée sur la tête au moment où la manifestation était dispersée par les forces de l'ordre. Que s'est-il vraiment passé? On voit cela dans un instant avec Julie Pietri. D'abord, le débat. Suite, écoutez le maire de Nice, Christian Estrosi.
Ça suffit de taper sur la police. Hein, il y avait une interdiction de manifester. Donc je souhaite un prompt rétablissement à cette dame qui se trouve à un endroit où elle n'aurait pas dû se trouver puisque c'était interdit. Donc aujourd'hui, c'est regrettable. Mais ça n'est pas un geste des forces de l'ordre qui a provoqué cela. D'ailleurs, le procureur a ouvert une enquête et je pense qu'il y aurait même deux enquêtes à ouvrir. Une enquête pour savoir dans quelles conditions cette dame a été blessée et une enquête pour savoir pourquoi des manifestants se trouvaient à un endroit où c'était interdit. Parce que la loi, c'est la loi.
Propos recueillis par Laurent Vareille de France Bleu Azur. Alors, Attac et l'avocate Geneviève Legay doivent déposer plainte aujourd'hui pour violence en réunion avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique contre personne vulnérable, autrement dit accusation de la police. Julie Pietri, à ce stade, que sait-on de ce qui s'est passé samedi?
Alors, sur la chute en elle-même, la famille parle de charges monstrueuses des forces de l'ordre. Le maire de Nice assure que la porte-parole d'Attac aurait trébuché lors d'un mouvement de foule. Elle est en tout cas blessée à la tête, plusieurs fractures du crâne, elle reste hospitalisée. Ce que dit pour l'instant le procureur de la République de Nice, c'est qu'elle a chuté, oui, elle s'est cognée fort sur un pylône, un petit poteau qui délimite le parcours du tramway, et ce, au moment où les forces de l'ordre chargeaient pour disperser. Sur l'endroit où cela s'est passé maintenant, dans Nice Matin, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, déclare que quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux définis comme interdits. Pour le président, c'est donc clair, elle était place Garibaldi dans l'un des périmètres où les manifestants n'avaient pas le droit de se rendre ce week-end sur décision de la préfecture. Là encore, le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre, est plus prudent. Pour elle, ce n'est pas si net, dit-il. Là où ça s'est passé, c'était presque en dehors de la place, dans un mouvement confus des forces de l'ordre et des manifestants. Il attend beaucoup maintenant de l'analyse des images de vidéosurveillance, des images qui seraient d'excellente qualité.
À Paris, pas de heurts notables ni saccages sur les Champs-Élysées ce week-end. L'avenue était interdite. C'est une information que vous nous donniez dès ce matin, Julie. Les Gilets jaunes veulent à nouveau manifester le week-end prochain. La demande vient de Gilets qui organisent des cortèges déclarés depuis janvier. Alors à propos des Champs, où en est la restauration de la statue de l'Arc de Triomphe défigurée par les pillards le 1er décembre? Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Un point a été fait sur ces travaux ce matin.
Bien sûr, vous avez encore en tête ce visage éventré, béant et dont l'expression exprimait presque la douleur.
On rentre dans le chantier de la restauration de la tête du génie de la patrie.
Chantier bien avancé. En une semaine, le visage est largement reconstitué avec les fragments les plus importants retrouvés au pied de la statue. À son chevet, 6 restaurateurs et restauratrices de sculptures qui se relaient pour les travaux. Agnès Leboudec et Marie Dumas, en l'occurrence, aujourd'hui.
Là, de toute façon, tu peux commencer à combler ici. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un des fragments qu'on ne sait pas où placer, qui va dans cette zone-là, on ne sait pas.
D'accord.
Il faut que tu arrives à le coller sur un bord, plus ou moins, utiliser l'arrondi et puis continuer à boucher.
D'accord.
Les deux artistes travaillent avec des photos de ce visage. Sur la droite de la statue, deux boîtes remplies de petits morceaux de plâtre. Un vrai puzzle pour Agnès Leboudec.
En fait, vous avez des fragments que nous n'avons pas encore réussi à placer. Les tout petits, on va avoir du mal. Parce que comme il nous en manque, on n'a pas forcément les bords de chaque petit fragment. Donc, il y en a, on sait la zone, on reconnaît par rapport à la couleur, par rapport au dessin de surface. Mais il y en a, on n'arrivera pas à les mettre.
Reste comme une balafre sur ce génie de la patrie au centre des monuments nationaux. Ensuite, de décider si la restauration effacera totalement la blessure ou si elle la laissera visible de près ou de loin. Travail marquant en tout cas pour Marie Dumas.
C'est une œuvre qu'en plus j'avais étudiée en histoire de l'art, que j'avais pour ma part beaucoup appréciée. Je la trouve très très belle et impressionnante. Et de voir ce trou béant, ça fait mal au cœur quand même. Par contre, c'est intéressant pour nous parce qu'on se dit, on va essayer avec nos compétences de lui redonner en fait une belle lisibilité.
La restauration de ce génie de la patrie sera pleinement terminée à la mi-mai. En attendant, les visiteurs de l'Arc de Triomphe verront les restaurateurs travailler.
Quoi qu'il en soit, le débat politique reste très marqué par cette crise des Gilets jaunes à 2 mois des élections européennes le 26 mai. Deux mois donc seulement, et on a encore peu de détails sur la liste La République En Marche, mais ça se précise. La démission de la ministre des Affaires Européennes, Nathalie Loiseau, pourrait intervenir dans la journée. Elle devrait bien prendre la tête de la liste pour la majorité. Et puis bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
À ses côtés, pour faire campagne, une figure de l'écologie, Pascal Canfin.
Et la troisième aura été la bonne par deux fois. Pascal Canfin avait été approché ou n'avait pas caché que rallier le président l'intéressait pour remplacer le démissionnaire Nicolas Hulot en septembre, en fixant ses conditions, ou même plus récemment pour mener cette liste en marche aux européennes. Entre Emmanuel Macron et Pascal Canfin, depuis 2017, l'histoire a toujours été un peu compliquée politiquement. Ils se sont courus après. L'ex-député européen, peut-être futur candidat, avait pris ses distances dans certains domaines, notamment sur l'isolation des logements. C'était une interview de Nicolas Demorand et Léa Salamé le 20 novembre dernier.
Ça fait des années, c'était vrai sous Sarkozy, c'est vrai sous Hollande, c'est vrai sous Macron. Des années qu'on dit « Ah, on va le faire » et on le fait pas. Il faut arrêter de faire semblant.
Mais en même temps, le délégué général de la WWF ne tarissait pas d'éloges sur la politique écologiste à l'international du président. Objectivement, c'est l'un des très rares à faire le job diplomatique sur le climat, confié Pascal Canfin il y a quelques semaines. Son ralliement n'a pas surpris ses ex-alliés d'Europe Écologie Les Verts, mais ce renfort est un coup dur pour Yannick Jadot, dont la campagne patine. Clairement, Emmanuel Macron veut placer l'environnement au cœur de sa campagne des européennes, et il cherche à attirer les votes des électeurs qui, lors de ces élections, se sont souvent tournés sur les candidats écolos.
Merci Cyril Gradiani. Mars 2012, c'était l'entrée de la France dans l'époque des attaques terroristes type Al-Qaïda ou État islamique. À Toulouse et Montauban, Mohamed Merah tue 7 personnes, 3 militaires, 3 écoliers juifs, le père d'un des écoliers, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Quel rôle son frère Abdelkader a-t-il joué? Il y a un an et demi, à l'issue d'un procès très tendu, Abdelkader Merah avait été condamné à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs. Pas de preuves formelles, mais un faisceau d'indices. Le procès en appel s'est ouvert ce matin, tout comme celui de Fethullah Malki, accusé d'avoir fourni l'arme et un gilet mitrailleur à Merah. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Corinne, vous êtes au palais de justice de Paris pour France Inter. Ambiance plus apaisée ce matin qu'en 2017. Hein.
Oui, il y a beaucoup moins de caméras et de photographes qu'en première instance. Très peu de public également. Et c'était l'espoir des parties civiles. Un procès en appel apaisé. Au premier rang, Latifa Ben Ziaten est assise à côté de Radia Le Gouad, la mère et la sœur de deux militaires tués par Mohamed Merah. Juste derrière, Samuel Sandler. Malgré la douleur, ce père et grand-père de 3 victimes de l'école aux arts à Torah est revenu.
Je veux pas abandonner mes enfants. C'est la seule chose qui me reste, c'est lutter, rappeler leur mémoire et lutter pour eux.
Pendant le rappel des faits, des mains tremblent, quelques larmes coulent. Pour ce procès en appel, Elie Korchia, l'avocat de la famille Sandler, espère une condamnation d'Abdelkader Merah pour complicité et pas seulement pour association de malfaiteurs terroristes.
On ne comprendra ce procès que si on arrive à déceler que c'est une fratrie qui est passée à l'acte en mars 2012. Il y a effectivement le bras armé Mohamed, mais on ne peut pas nous dire qu'Abdelkader Merah, qui était évidemment le mentor, l'idéologue, que lui n'était pas au courant des actes qui allaient être commis par son frère.
Dans le box, Abdelkader Merah, chemise blanche, silhouette encore un peu plus massive, ses longs cheveux noirs attachés, la barbe fournie, décline son identité d'une voix teintée d'accent du sud-ouest. Cela fait 7 ans, jour pour jour, qu'il est incarcéré. Son avocat, Éric Dupond-Moretti.
Vous savez, le dossier n'a pas changé, c'est toujours le même. Ce qui a changé, c'est qu'on a 2 avocats généraux au lieu d'une. Ce qui a changé, c'est que les juges ne sont plus les mêmes. Mais le dossier, en ce qui concerne la complicité d'assassinat, il est toujours aussi vide.
Pour ce procès en appel, Bruno, 4 semaines d'audience sont prévues.
Corinne Audouin en direct du Palais de Justice de Paris avec Lucien Lefebvre pour France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Avec l'invité de notre journal que je vous présente dans un instant, nous allons parler des relations parfois compliquées entre Amazon et les petites et moyennes entreprises françaises. Coup de gueule ce matin de Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Il accuse le géant américain et son site internet de profiter de sa position dominante pour malmener les PME.
Certaines se font déréférencer, certaines voient leurs prix, leurs tarifs vis-à-vis de la plateforme augmenter. Et pourquoi ce problème il est grave? Parce qu'aujourd'hui, les Français, on achète à 28% du e-commerce à travers ces plateformes. C'est-à-dire qu'avant, on achetait directement sur les sites e-commerce de tout le monde, et de plus en plus, on va sur quelques adresses, et c'est elles qui nous permettent d'acheter chez les autres. Et ça, ça peut créer des dérèglements très graves. Mais vous savez, on n'est pas impuissant. Ce n'est pas un appel au boycott, c'est juste de dire, on a le choix. Il y a plein de plateformes.
Bonjour Delphine Borne.
Bonjour.
Juriste de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Quels chiffres on peut donner pour mesurer l'importance d'Amazon pour les PME et vice-versa d'ailleurs? en France?
Alors, j'aurais pas de chiffre exhaustif à vous donner, mais Amazon elle-même, quand elle a été reçue à la CPME, avait évoqué le chiffre de une vente sur deux sur Amazon qui est faite par une PME.
Globalement, ça se passe bien ou ça se passe mal?
Alors, il y a des cas où ça se passe évidemment bien, mais les cas où ça se passe mal trouvent difficilement de solution. Et c'était ça justement l'objectif de la charte qu'évoque le ministre, une charte pour des bonnes pratiques dans le e-commerce.
Qui doit être signée demain, on va y revenir. Quand il parle de déréférencement, expliquez-nous ce que ça veut dire.
Ça veut dire que du jour au lendemain, une PME qui réalise donc des ventes via Amazon ou d'autres plateformes, du jour au lendemain se retrouve déréférencée, c'est-à-dire que tous les produits qu'elle vend, elle ne peut plus accéder à la plateforme du jour au lendemain. Mmh. Donc, je ne parle pas des cas de suspicion de contrefaçon, ça c'est réglé par la loi. On parle de parce que ça ne correspond plus aux standards de la plateforme. J'ai un exemple, par exemple, un mode de livraison qui, du jour au lendemain, ne correspond plus aux standards de la plateforme. La PME ne peut plus livrer de cette façon-là. Et le problème, c'est que des fois, elle ne sait pas pourquoi elle est déréférencée. Il faut qu'elle attende des semaines avant d'avoir la réponse.
Est-ce qu'Amazon demande des engagements particulièrement difficiles à tenir?
Alors, Amazon, le problème, en fait, c'est que ça change régulièrement. Et
c'est
qu'il y a des évolutions.
Il n'y a pas de stabilité.
Voilà, il n'y a pas de stabilité. Donc, l'entreprise, il faut quand même savoir que des PME, des fois, réalisent 30, 40, 50, 60% de chiffre d'affaires avec une plateforme. Et du jour au lendemain, quand elle perd ce marché-là, c'est une question de survie. C'est pour la pérennité des PME françaises, quand même.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'au fond, plusieurs PME se regroupent, voire via la CPME, qu'il y a un site qui soit fait? On sait que des libraires se regroupent pour contrecarrer Amazon. Ce serait envisageable ou ça n'est pas envisageable, ce serait trop cher, trop compliqué?
Alors, il y a évidemment beaucoup de questions autour de ça pour la mise en place, mais il faut savoir que le ministre Mounir Majoubi, au mois de décembre, avait lancé le Noël des PME, qui était justement dans cet objectif-là. C'était une espèce d'Amazon des PME, avec un critère justement France. C'était des PME, c'était classé par type des jouets, esthétique, alimentaire, et c'était que des PME. Vous pouviez réaliser vos achats en ligne, et vraiment, c'est un site que la CPME a approuvé. On a contribué à le réaliser. C'est le Noël des PME et il est encore en ligne et c'est vrai, c'était vraiment une très bonne initiative.
Donc il y a d'autres sites, comme dit Mounir Majoubi, on peut aller voir ailleurs. Amazon, Alibaba, même combat, le géant chinois, a lui aussi des pratiques très discutables ou pas, où il y a un problème particulier avec Amazon?
Alors,
et nous, on vient à la charte ensuite.
Nous, avec Amazon, c'est avec eux. Enfin, il nous avait semblé qu'Amazon avait ouvert le dialogue avec les PME. Il avait été reçu chez nous à la CPME pour parler directement aux chefs d'entreprise. Il nous semblait que c'était une ouverture un peu au dialogue. On avait l'impression qu'il avait envie de parler aux PME pour les faire venir.
Et ça n'est pas le cas.
Et là, oui, effectivement, on est très déçus. Vraiment, c'est un retour en arrière pour nous.
Alors, la charte pour les bonnes pratiques consignée d'autres géants du style eBay, que dit-elle, cette charte, pour de bonnes relations entre les grands sites de vente sur Internet et les PME?
Alors, on vous avoue que c'est pour nous, c'est un premier stade de discussion. Ce n'était pas des obligations très engageantes, du type rendre les conditions d'utilisation accessibles, rédiger les documents contractuels de façon claire et compréhensible, prévoir un dispositif de maintien du dialogue. Vous voyez, c'est quand même des choses qui paraissent du bon sens.
Oui, il n'y a rien de monstrueux.
Voilà. Et notamment, et ce qui pose vraiment problème, c'est quand il y a une difficulté avérée qui est un dispositif individualisé de discussion, en fait. Que ce soit pas des mails automatiques où la PME attend, relance et attend des semaines avant d'avoir une réponse qui est propre à son cas.
Ouais, y a pas de quoi refuser une signature.
Mais c'est pour ça qu'on est particulièrement déçus, parce qu'on a discuté des mois, ça date de novembre 2018. Donc ça fait des mois qu'on est dessus avec toutes les plateformes. Pour nous, c'était vraiment qu'un premier stade. On considérait pas que c'était particulièrement irréalisable.
Le boycott, ça vous semble une bonne piste?
Alors, on n'emploierait pas le mot de boycott, mais après, c'est vrai que les consommateurs peuvent aussi faire un choix dans les achats qu'ils pratiquent sur Internet. Il y a quand même d'autres, je pense,
d'autres possibilités.
Notamment, j'évoquais le Noël des PME, qui est un site vraiment que à la CPME nous recommandons.
Merci beaucoup, Delphine Borne, d'être venue dans les studios de France Inter. L'actualité internationale et ce mot écrit en lettres capitales dans un tweet de Donald Trump. Disculpation aux États-Unis. Le procureur spécial Robert Mueller a bouclé son enquête. Aucun élément ne prouve une collusion, une entente avec la Russie pour influencer la présidentielle 2016. Le Hey Glory.
Ni entente, ni coordination entre l'équipe de Donald Trump et la Russie. Voilà donc la principale conclusion formulée par Robert Mueller dans ce rapport qui tombe un peu à plat. Après 700 jours d'enquête, impossible de prouver une quelconque conspiration entre le président et Moscou. Une victoire incontestable pour Donald Trump qui dénonce depuis des mois une chasse aux sorcières orchestrée par l'opposition. Le milliardaire avait gardé le silence tout le week-end avant d'exulter hier soir.
Il n'y avait pas de collusion avec la Russie. C'est la chose la plus ridicule que je n'ai jamais entendue. Il n'y avait pas non plus d'obstruction, rien de tout cela. Cette tentative illégale pour m'abattre a échoué.
Un petit raccourci toutefois du président américain en ce qui concerne l'obstruction. Rien ne prouve en effet que Donald Trump a fait pression sur les enquêteurs, mais rien ne prouve l'inverse et les démocrates n'ont pas tardé à l'attaquer sur cette question. L'opposition réclame désormais une version complète du rapport. Le résumé fourni hier, affirme les démocrates, pose autant de questions qu'il apporte de réponses. Une opposition qui devrait, grâce à sa majorité à la Chambre basse, lancer de nouvelles enquêtes parlementaires contre le président. New York, Loïc Lory, France Inter.
Et Donald Trump dit n'avoir aucun problème avec la publication complète du rapport Mueller. Nous parlions d'Amazon il y a un instant. Une information de dernière minute qui concerne Facebook et YouTube. Une plainte du Conseil français du culte musulman. Plainte après la vidéo de Chris Church, ces images de la tuerie qui avait mis de longues minutes à être retirées par les grandes plateformes. Et donc à l'instant, cette plainte du Conseil français du culte musulman. L'actualité internationale, c'est encore la rencontre Macron-Xi Jinping après le dîner sur la Riviera hier, l'Elysée aujourd'hui, entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État et puis une cérémonie d'échange des accords avant un dîner d'État à l'Elysée. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Et ne pas oublier les droits de l'homme, rappel signé ce matin Reporters sans frontières.
Oui, vous savez, la Chine qui occupe le Tibet, ça ne change pas. La Chine qui persécute les Ouïghours et les minorités, ça ne change pas non plus. La Chine qui est 176e, vous avez bien entendu, sur 180 au classement de la liberté de la presse, ça ne change toujours pas. Mais ce qui évolue, et ça c'est vraiment nouveau, c'est la menace de la censure. Pékin entend développer sa façon de traiter l'information partout dans le monde. Et pour ce faire, les Chinois utilisent tous les moyens modernes. Ils veulent à la fois maîtriser les tuyaux de la communication, maîtriser Internet avec des acteurs économiques comme Huawei et sa 5G, mais aussi maîtriser l'information qui passe dans ces tuyaux, un contrôle total, comme l'explique Christophe Deloire de Reporters sans frontières.
La Chine veut changer tout simplement l'ordre mondial des médias. Elle veut imposer son ordre. Et pour ça, elle a une stratégie. Elle entre au capital de médias partout dans le monde. Elle invite des journalistes à des séminaires, à des formations à Pékin. Il y a une opération qui s'appelle Tapis rouge. Elle intimide, elle menace. Des journalistes ont été licenciés dans des médias à l'étranger, tout simplement parce que Pékin avait des participations et que les paroles de ces journalistes avaient déplu à Pékin. En fait, le rêve chinois, qui est une expression qui a été développée par le président Xi Jinping, le rêve chinois en matière d'information, c'est le contrôle.
Et pour comprendre encore comment fonctionne cette influence chinoise, il faut savoir par exemple que Pékin a créé une loi sur la cybersécurité très restrictive et que cette loi a été adoptée par d'autres pays comme le Vietnam ou encore le Cambodge. Je vous passe aussi les fake news, si cher à Donald Trump. Selon RSF, les Chinois sont friands.
Merci Nathanaël. Ouvrir ou pas les ports, les routes, les autres grandes infrastructures européennes aux investissements chinois, c'est donc la question du moment. Demain, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker de la Commission européenne rejoignent Emmanuel Macron et le président chinois pour parler de ce sujet. L'armée israélienne envoie des renforts dans le sud. Benjamin Netanyahou rentrera un peu plus tôt que prévu d'un déplacement aux États-Unis. Cela après un tir de roquette de Gaza qui a fait 7 blessés légers près de Tel Aviv. Le Hamas assure ne pas être derrière ce tir de roquettes. Il y a des semaines où la chronique de Sandrine Houdin, c'est mon actu chaque lundi dans ce journal de 13h où cette chronique est très légère. Eh bien, ça n'est pas le cas cette semaine. Cette semaine, nous parlons de Nadia. Elle a 54 ans, elle est d'origine algérienne, elle a élevé 7 enfants et depuis 20 ans, elle habite un 3 pièces dans un immeuble parisien que les propriétaires n'ont jamais entretenu. Pour se battre, elle a cessé de payer le loyer et du coup, elle risque l'expulsion dimanche soir, fin de la trêve hivernale. La voilà, l'actualité de Nadia, la fin de cette trêve. La mairie de Paris, entre autres, l'a constaté dans cet appartement. Rien n'est aux normes, il y a du plomb, il y a de l'amiante, il y a une humidité infernale. Nadia et l'une de ses filles, Asia, montrent à Sandrine Houdin une des pièces les plus invivables.
La chambre des enfants, c'est impossible. Mon fils, des fois, j'ai dit qu'il a fait pipi.
C'est extrêmement humide, en fait, les matelas,
les couettes, les draps sont mouillés, puisque les murs ne sont pas du tout isolés. Là, il y a des champignons.
Regardez de devant.
Sur tous les murs, en fait. On a sollicité absolument toutes les structures et en fait, on n'est pas écouté.
Pour vous, cette procédure d'expulsion, c'est comme une double peine, quoi.
Bien sûr, double peine.
Bah, c'est une injustice totale. Se retrouver dans un appartement qui a été constaté par les autorités comme étant insalubre, on a beau brailler, on risque d'être expulsé quand même.
Quand j'ai quelqu'un qui frappe à la porte, je croyais c'est l'huissier.
C'est au point de même avoir peur d'aller faire des courses
oui.
ou de...
Oui, oui, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à la maison. On se trouve des tours de garde, nos affaires dans un sac voilà. poubelle chacun.
Ils sont emballés.
Tout ce qui est là, là.
Oui, voilà. oui.
J'ai ma petite sœur qui passe le bac cette année. C'est vraiment pas des conditions psychologiques pour passer un examen. On se réveille la nuit, on se dit c'est peut-être la dernière nuit. Peut-être que demain, on va nous réveiller à 6h du matin, on va nous faire sortir. Tout le monde sait que c'est un appartement insalubre et on nous a laissé clairement moisir dans cette situation. Le 31 mars, on sera peut-être dehors et on côtoiera nos voisins dans la rue.
C'est la honte pour la France. Mon grand-père maternel, il a travaillé pour la France. Mon grand-père paternel, il a travaillé pour la France. Mon père, il a travaillé pour la France. Mon ex-mari, 45 ans. Moi, je travaille. On mérite un droit de logement. C'est pas de la charité qu'on demande. C'est un droit comme tout le monde.
Elle s'appelle Nadia et des associations comme la Fondation Abbé Pierre la soutiennent. La fin de la trêve des expulsions, c'est donc dimanche soir. La chronique de Sandrine Houdin, vous la retrouvez sur franceinter.fr et vous pouvez y entendre plus longuement le témoignage de Nadia. La tension est de plus en plus vive entre les forains et les forces de l'ordre au Mans. Quatrième journée de manifestation. 300 à 500 forains dans le centre-ville ce matin et les forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Tout autre sujet à présent. On va découvrir des pays qu'on ne connaît pas forcément très bien avec l'équipe de France de football lors des éliminatoires de l'Euro dans les mois à venir. Après la Moldavie il y a quelques jours, avant l'Albanie et Andorre et la Turquie plus connue, c'est l'Islande ce soir à 20h45, l'Islande qui vient jouer à Saint-Denis. L'Islande au plan du football depuis 2016, on la connaît mieux. Elle était allée loin dans le tournoi 2016, battue par les Bleus. C'était un exploit pour ce pays tout au nord de l'Europe, pas loin du Groenland. Les Islandais coriaces, leurs supporters déchaînés et sympathiques avaient marqué les esprits. Depuis, que sont-ils devenus, Jérémy Richard ?
Eh bien, depuis leur incroyable parcours jusqu'en quart de finale de l'Euro 2016 et leur qualification historique pour le Mondial 2018 en Russie, les Islandais ont quelque peu marqué le pas. 442 jours sans gagner un match de compétition jusqu'à vendredi soir dernier, une victoire 2-0 nette et propre contre Andorre. Car ni pendant leur première Coupe du Monde, malgré un bon nul en ouverture un partout contre l'Argentine, ni pendant la Ligue des Nations, battue à l'aller et au retour contre la Suisse et la Belgique, concédant même 13 buts au total, l'Islande n'aura réussi à créer la surprise. Ces rencontres ont permis au contraire de révéler de gros soucis défensifs et une inefficacité criante devant le but, pourtant deux secteurs où les Islandais excellaient. Le nouveau sélectionneur Erik Hamrén, aux commandes depuis 8 mois, peine à imprimer son style et à transcender ses joueurs. Même si à sa décharge, le Suédois a trop souvent dû composer son 11 de départ avec de nombreuses absences de poids. Certains cadres, qui devaient d'ailleurs prendre leur retraite après le Mondial, sont très vite revenus, car la nouvelle génération, bien que talentueuse, tarde à éclore.
À l'instant, cette dernière minute, nos confrères de France Info, les trains bloqués en gare de Paris-Montparnasse. Des manifestants occupent les voies ferrées et empêchent le départ des trains à destination de l'ouest de la France. Les trains bloqués à Montparnasse. Avant la météo, terminons avec ce décès, la mort d'un homme qui a inspiré beaucoup de très grands chanteurs. Il a inspiré David Bowie, Alain Bashung, Neil Annon de Divine Comedy, Jarvis Cocker des Pulp. Il s'appelait Scott Walker. Il avait 76 ans, bassiste de formation. Il a fait aussi connaître Jacques Brel dans le monde anglo-saxon. 1967, il reprend le port d'Amsterdam. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails. He will show you his teeth that have rotted too soon, that can swallow the moon, that can haul up the sails. Adieu Scott Walker, c'était dans son premier album solo qui s'appelait tout simplement Scott.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Jean-Pierre Hameau.
Des températures plus fraîches cet après-midi dans la moitié nord du pays. Fraîcheur souvent renforcée par un vent soutenu de secteur nord. Ne prévoyez pas plus de 9 à 13 degrés avec 9 degrés à Langres, 10 à Nancy, 11 à Reims et Abbeville. À peine 12 degrés dans la capitale, comptez 13 à Bourges. Elles seront un peu plus douces en allant vers le sud et le sud-ouest. Les valeurs attendues seront comprises entre 14 et 19 degrés. Comptez 14 à La Rochelle et Biarritz, 17 à Toulouse et 20 à Toulon. Côté ciel, prévoyez des nuages bien développés dans un grand quart nord-est et de rares averses près des frontières. Toujours sec et bien ensoleillé partout ailleurs, Mistral et Tramontane vont se renforcer nettement. Même type de temps demain, nuageux dans un grand quart nord-est du pays, bien ensoleillé partout ailleurs. À noter un temps agité en Corse avec des averses de pluie ou de neige en montagne et beaucoup de vent.